France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
L'économie américaine vient de battre un record de longévité en matière de maintien de la croissance. Depuis désormais 10 ans et la fin de la crise des subprimes, les États-Unis connaissent en effet une croissance ininterrompue, ce qui n'était pas arrivé depuis le milieu du 19e siècle. Elle est faible, cette croissance, en moyenne 2% par an, mais elle est continue et régulière. La Maison-Blanche estime qu'elle pourrait d'ailleurs accélérer et atteindre 3% cette année, même si de nombreux économistes reste très sceptique. Et il signale que ce sont surtout les baisses d'impôts pour les entreprises, l'augmentation des dépenses militaires voulues par Donald Trump qui explique ces bons chiffres, plus que jamais précaires, alors même que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes et que la pauvreté, bien sûr, n'a pas été éradiquée, pas plus aux États-Unis d'ailleurs que ailleurs. Bonjour Esther Duflo.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Culture. Vous êtes économiste, professeur au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, spécialiste de l'économie du développement, auteur de nombreux ouvrages qui font autorité. On élargira bien sûr notre discussion, mais ces statistiques et votre excellente connaissance d'un pays dans lequel vous vivez, dans lequel vous enseignez, nous donnent un point de départ. Est-ce que vous diriez-vous, avec votre grille de lecture, que les États-Unis vont de mieux en mieux économiquement depuis 10 ans?
Non, ça voudrait dire, pardon, ça voudrait dire que de dire que les États-Unis vont de mieux en mieux économiquement, ça voudrait dire qu'on résume le bien-être économique d'un pays par son PIB, ce qui est pour le moins contestable. D'abord parce que même le PIB ne traduit pas forcément tout ce qui est toute la valeur qui est créée dans une économie, et le bien-être, le bonheur des gens, etc. Et puis parce que, par exemple, ne traduit pas les inégalités, l'augmentation des inégalités, etc. Donc le fait que le PIB augmente n'est pas un signe, n'est pas vraiment un symptôme du bien-être des États-Unis en général.
Le salaire moyen stagne aux États-Unis depuis des années et les inégalités s'accroissent considérablement.
Voilà, donc ces deux faits sont vrais, sont liés dans une large mesure, mais sont différents en quelque sorte. C'est-à-dire que d'une part, le salaire moyen stagne depuis des décennies. Le salaire moyen réel aux États-Unis n'a pas bougé depuis des décennies. D'autre part, comme on le sait, par exemple, grâce aux travaux d'Emmanuel Saez et Thomas Piketty, l'augmentation des inégalités de revenus continue avec une augmentation en particulier des très 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 hauts revenus qui ne cesse de s'arrêter.
Vous vous intéressez très particulièrement, et on le sait, à ces mécanismes sur les inégalités. La crise des subprimes, c'est bel et bien derrière nous, mais les moteurs qui avaient allumé et provoqué son déclenchement sont encore chauds, vous diriez ça ?
Il y a un certain nombre de phénomènes qui avaient convergé pour créer la crise des subprimes, dont peut-être au cœur et expliquant tous les autres phénomènes qui avaient finalement fini par créer cette crise, une espèce de tolérance pour les actions des financiers, enfin des gens qui travaillent dans la finance, qui disaient rassurez-vous, on sait ce qu'on fait, on comprend, etc. Et finalement refusant toute régulation. Et ce qui s'est passé juste après la crise des subprimes, c'est qu'il y a eu un effort pour réguler mieux cette industrie de la finance, que ce soit leur comportement vis-à-vis des consommateurs et des particuliers, en particulier le libéralisme avec lequel ils donnaient des prêts à des gens qui pouvaient évidemment pas rembourser, et au niveau plus élevé, la manière dont ils pouvaient se comporter dans leurs grandes transactions financières. Mais malheureusement, donc il y a eu un effort avec la législation Dodd-Frank juste après la crise, mais elle a été presque immédiatement, cette législation, quand elle est passée au stade de la régulation, a été presque immédiatement édentée, n'ayant plus vraiment aucune force. Et depuis la crise de subprimes, toute l'histoire est de défaire peu à peu. Ça a commencé avant Trump, mais ça s'est accéléré évidemment depuis 2016. Toutes les garde-fous qui avaient été mis en œuvre à ce moment-là.
Ça avait commencé sous Obama. On n'a pas tiré les leçons de cette crise des subprimes.
Non, on n'en a pas tiré les leçons les plus fondamentales. On en a tiré certaines leçons, mais pas les plus importantes, et en particulier pas le fait qu'on ne pouvait absolument pas faire confiance au secteur financier pour se réguler lui-même. Et pas non plus, peut-être, à un niveau un peu plus méta, presque, politique, de on ne peut pas... pour faire une régulation financière sérieuse, il faut réussir à le faire dans une espèce d'isolation des lobbies de finance, de financiers, de banquiers, etc. Et en fait, il y a des portes très, très, très perméables, disons, entre le monde de politique et le monde de la finance, qui était déjà présent sous l'administration Obama, mais qui est maintenant a atteint un point absolument caricatural avec la composition de l'administration de Trump, qui fait que on demande en fait aux pyromanes de jeter les allumettes. Enfin, ouais. On demande aux pyromanes de régler qui a droit aux allumettes et quand.
L'accroissement des inégalités, là, sur un registre plus politique, mais en quelques mots, c'est évidemment tout bénef pour un leader qui bénéficie de ce sentiment de rejet des élites et qui va ensuite pouvoir compter sur un certain populisme qui se met en place. Parce que c'est ça les conséquences aussi de la crise des subprimes.
Oui, dans le court terme, c'est tout bénef, comme vous dites, dans le sens où c'est en partie cette augmentation des inégalités, ce contraste entre la perception réelle qu'ont les gens, que leur revenu, leur niveau de vie n'a pas augmenté depuis des décennies, et que donc la promesse américaine, qui est la promesse de mes enfants seront mieux que moi, mes enfants auront un meilleur statut que moi, n'est pas réelle. En fait, la mobilité sociale aux États-Unis est plus faible que la mobilité sociale en Europe. C'est en contraste complet avec le rêve américain, ouais. Qui est que, oui, il y a des inégalités importantes, mais il est possible pour mes enfants de faire mieux que moi et ils ont un ticket de loterie comme tout le monde. En réalité, ce n'est pas vrai. La mobilité est plus faible aux États-Unis qu'elle est en Europe. Les perceptions sont encore qu'elle est plus forte.
C'est ça. C'est encore une chimère. C'est-à-dire que ça n'a pas totalement disparu. On peut s'en servir encore, démagogiquement, de cet American way of life, de ce rêve américain. Et les leaders ne s'en privent pas, Esther Duflo.
C'est une chimère qui existe encore. Et le fait, à mon avis, cette chimère, en fait, provoque encore plus de mécontentement, de haine, de réaction raciste souvent, parce que le rêve existe encore, les gens contrastent ce rêve avec leur propre expérience et celle de leurs proches dans leur ville, au milieu des États-Unis où il ne se passe rien et personne ne progresse, et du coup ils cherchent un coupable. Donc soit le coupable ça peut être eux. Et ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est une énorme augmentation des morts qu'on a appelé les morts de désespoir. C'est-à-dire, pour la première fois aux États-Unis, il y a une augmentation de la mortalité. Ce qui est quand même remarquable quand vous me posez la question de est-ce que les États-Unis vont bien économiquement ? Comment on peut dire d'un pays qui va bien économiquement quand la mortalité augmente ? Il n'y a pas de pays où la mortalité augmente au-delà à part les guerres ou des situations absolument extrêmes. Même les pays les plus pauvres d'Afrique, la mortalité s'améliore. Mais aux États-Unis, la mortalité augmente. C'est entièrement dû aux hommes et aux femmes blancs qui meurent dans leurs les années 50 et 60 de suicide, d'overdose, d'alcool.
Dans la cinquantaine, dans la soixantaine.
Dans la cinquantaine, dans la soixantaine.
Il y a eu la crise des opioïdes.
De suicide, d'overdose, donc dont les opioïdes, d'alcool. Et donc, soit quand on voit le contraste entre le rêve américain et sa réalité, soit on considère ça comme une défaite personnelle et du coup ça amène vers ces morts de désespoir. Soit on cherche un ennemi et du coup on a les réactions extrêmement xénophobes que Trump évidemment utilise dans son discours contre la migration, qu'il a porté à la Maison Blanche et qu'il le reportera peut-être à la Maison Blanche à la prochaine élection présidentielle. Ou la nouvelle incarnation la plus récente, le racisme direct, même contre des citoyens américains qui se trouvent être d'une autre couleur.
Faites référence aux quatre élus démocrates qui ont été ciblés récemment lors d'un discours de Donald Trump. Où en sont les politiques publiques d'aide aux plus démunis? Vous êtes spécialiste de ce genre de questions, Esther Duflo. On sait que dans la campagne présidentielle pour 2020 se situera aussi l'Obamacare, la question de l'Obamacare, que Trump n'arrive pas vraiment à détricoter. Qu'en est-il de l'Obamacare et des autres politiques publiques de terrain aux États-Unis pour venir en aide justement à ces classes qui se sentent délaissées, déclassées, reléguées socialement?
Le grand paradoxe, enfin c'est peut-être pas un paradoxe si surprenant que ça, mais enfin le paradoxe de l'administration Trump, c'est que le discours politique et économique était populiste. Finalement, moi, je vais vous protéger contre les élites et je vais m'assurer que votre bien-être augmente. Alors que la politique est finalement très conventionnelle, de droite, disons. Et donc, il y a une... on voit en même temps, il y a eu une très grosse réforme fiscale qui s'est produite en 2018, mais qui était essentiellement en faveur des personnes les plus riches. Et en même temps, même si le détricotage d'Obamacare n'a pas été complètement réussi, une attaque contre les programmes sociaux. Donc, avec des réformes dont on parle assez peu, mais qui finalement sont des attaques permanentes contre les programmes. Par exemple, de rendre de plus en plus de programmes sociaux conditionnels à une activité professionnelle. Alors, c'est le cas pour certains programmes déjà, ça parce que c'est un mouvement qui existe depuis Reagan. Donc, doucement, tous les programmes deviennent conditionnels à une activité professionnelle. Mais maintenant, même des programmes comme les food stamps, qui est l'aide alimentaire, devient dans certains États conditionnel à une activité professionnelle. Ce qui a l'implication directe que moins de gens peuvent être bénéficiaires, etc. Et il y a eu un rapport de l'administration Trump il y a quelques mois disant « Nous avons déjà gagné la guerre contre la pauvreté. Plus personne n'est pauvre aux États-Unis grâce à la grande croissance que nous avons vécue. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est donner aux pauvres le privilège d'être américain complètement et donc de travailler pour vivre comme font tous les vrais Américains. Et la seule façon de le faire, c'est de rendre les programmes sociaux conditionnels. » Donc, c'est ce qui est en train de se passer doucement et ça correspond, en fait, là, ça correspond à une tendance qui avait commencé déjà sous Reagan, qu'on retrouve dans d'autres pays, hein, y compris en France, qui est une espèce de méfiance très profonde vis-à-vis des pauvres. C'est-à-dire, dans un pays en particulier comme les États-Unis, où il y a justement le rêve américain, si quelqu'un est pauvre, c'est qu'il a sûrement, il est paresseux, il y a quelque chose qui ne va pas, ouais. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison de l'aider, on pourrait peut-être même un petit peu le punir quand même, et puis ça éviterait qui vivent aux frais de la princesse, qui est nous, les Américains qui travaillent dur.
Là, vous nous décortiquez tout un système, finalement, et tout un mystère qui consiste à essayer de comprendre pourquoi, finalement, les classes populaires votent Trump. Ça fait partie des explications, ce que vous venez de nous donner. Est-ce que, scientifiquement, vous avez évalué les dégâts sur le terrain, puisque vous êtes une économiste de terrain et que vous essayez d'opposer la science à ce caractère irrationnel de la politique et des déclarations politiques, notamment trumpiennes?
Pour voir les conséquences de la politique de Trump précisément elle-même, il faudra plus de temps. Je pense qu'il faudra voir comment les choses se passent au cours du temps. On a d'autres... par contre, on a beaucoup de données, beaucoup de connaissances qui nous permettent de dire quelque chose sur les ressorts imaginés, justement, qui sont derrière ce détricotage. Par exemple, cette peur que les pauvres vont s'arrêter de travailler si leur vie est plus confortable est complètement irrationnelle.
Ça, c'est pas uniquement propre aux États-Unis, par ailleurs.
C'est pas seulement propre aux États-Unis. Vous vous souviendrez du fameux making-of de... du président Macron qui explique qui avait un discours qui était le pognon de dingue et la responsabilité, etc., qui quand même réussit en quelques minutes. Je crois que j'avais compté le nombre de fois où il disait responsable, 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 mais c'était plus de 10 fois. Et donc c'était clairement le message qu'il voulait faire passer, correspondait exactement à ce type de message qu'on trouve aux États-Unis depuis Reagan, mais qui a continué sous Clinton, etc., qui est de la nécessité de responsabiliser les pauvres et donc l'idée à contrario qui serait irresponsable si on les aide financièrement. Or, il y a des études depuis les années, au moins depuis les années 80 aux États-Unis, tout à fait rigoureuses, montrant l'effet de transferts financiers, d'aide financière aux plus pauvres sur leur travail, etc., qui montre qu'en fait, il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire même quelqu'un qui reçoit un revenu garanti, par exemple, on a parlé d'un revenu minimum garanti, quelqu'un qui reçoit un revenu garanti ne s'arrête pas de travailler parce qu'il a tout d'un coup assez d'argent. Et même quand ce revenu lui est retiré s'il travaille, donc qui crée cette peur que, oh là là, mais alors le travail ne paie pas, au contraire, ça pourrait aller. Même quand le revenu est retiré quand il travaille, les effets sont très très faibles. Donc ça, on l'a trouvé aux États-Unis. Dans les pays à revenus moyens ou dans les pays pauvres, où les transferts financiers conditionnels à des soins de santé, etc., se sont multipliés, donc en commençant par le Mexique. Il y a maintenant une trentaine de programmes qui ont été évalués très rigoureusement, qui permettent aussi de regarder l'effet d'avoir un revenu sur le travail des gens, et on ne voit aucun effet. Et quand on voit un effet, il va dans l'autre sens, c'est-à-dire de donner aux gens une sécurité minimum qui leur permet d'avoir peut-être... de leur donner un petit peu de perspective de confort pour l'avenir, de pas être stressé de manière permanente, leur permet en fait de se dire, bon, il faut, je peux tenter, par exemple, de recevoir une formation qui permettra d'avoir un emploi ou de déménager pour trouver un meilleur emploi, etc., parce que je sais que quoi qu'il arrive, il y a un filet de sécurité derrière moi.
Donc, on prend des risques.
Voilà, quand on trouve un effet, c'est de permettre aux gens de prendre des risques qui leur permettent en fait de travailler plus. Et pas moins.
Donc le revenu minimum garanti, c'est ce que vous nous expliquez, Esther Duflo, peut faire partie d'un panel de solutions, ça ne serait pas la seule, pour réduire la pauvreté, y compris dans un pays comme la France ?
Dans les pays riches, c'est une question qui est un petit peu compliquée, parce que dans les pays riches, souvent, la manière dont on y pense, c'est un revenu minimum garanti, ça va permettre aux gens de ne pas travailler. Et là, dans beaucoup de cas, le discours sur le minimum garanti, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est plutôt une espèce de calcul. Les robots, les machines, etc., vont prendre nos emplois. Il faut bien que les gens mangent, donc on va leur donner un revenu minimum garanti et ils vont pas travailler et tout allait bien parce que tout va bien aller parce qu'ils vont pas mourir de faim. En fait, les données dont je parlais tout à l'heure nous disent que c'est pas ça qui va se passer. Que même si les gens ont revenu minimum garanti, ils vont quand même vouloir travailler. Parce que la réalité, c'est que le sens d'être soi, l'identité, etc., elle passe souvent, pour beaucoup de gens, par l'insertion professionnelle, par le travail. Et quand les gens ont un travail qui ne leur plaît pas, quand les gens ont un travail qu'ils considèrent être au-dessous d'eux, ça contribue à leur mal-être. Mais quand les gens sont au chômage... C'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas assez de revenus qu'ils sont malheureux, c'est parce qu'ils ont l'impression de ne pas être complets, de ne pas être qui ils veulent être. Donc un revenu minimum, ça ne consolerait pas les gens de ne pas avoir de travail, donc ça ne résoudrait pas, dans les pays riches, à mon avis, le problème essentiel auquel on va faire face dans le futur, qui est qu'est-ce qui se passe si effectivement... Les robots et les machines deviennent tellement productifs que les entreprises ne veulent plus embaucher d'humains.
D'après les derniers résultats là de croissance aux États-Unis et l'analyse un peu fine de ces résultats, on voit que la révolution numérique n'a pas encore forcément produit beaucoup d'effets sur la production. Il n'y a pas eu de bond de productivité néanmoins, hein, Esther Duflo. Comment vous l'expliquez ça ? Il y a un effet retard
C'est un des grands mystères que les économistes de la croissance aime à considérer, c'est le fait que, et ça c'est un mystère qu'on voit en fait depuis peut-être même 20 ou 30 ans, c'est que la révolution numérique ne se traduit pas du tout dans des chiffres de productivité. Je pense honnêtement que personne n'y comprend rien. Je n'y comprends rien, mais je crois que personne n'y comprend rien. C'est-à-dire, de manière générale, pour être parfaitement honnête, personne ne comprend vraiment rien au mécanisme de la croissance. Et d'ailleurs, le plus grand économiste de la croissance de l'histoire, qui est Bob Solow, considérait que le progrès technologique était une espèce de... Il l'appelait la mesure de notre ignorance. C'est-à-dire, la croissance, on comprend... certains mécanismes de la croissance, c'est-à-dire s'il y a plus de gens qui travaillent, il y a plus de croissance. S'il y a plus de machines, il y a plus de croissance. Si les gens sont mieux éduqués, il y a plus de croissance. Tout ça, ça fait sens. Mais à part ça, il y a un reste qu'il appelait, donc, qu'on appelle parfois le résidu de Solow, ou la mesure de notre ignorance, ou, quand si on veut être très pédant, la productivité totale des facteurs, qui est en gros, on ne sait pas. Et depuis, beaucoup de gens ont essayé d'expliquer ce « on ne sait pas », mais la réalité, c'est que... on ne sait pas. Et là, je pense qu'on comprend très très mal pourquoi il n'y a pas d'augmentation de la productivité malgré les nouvelles inventions technologiques. Et je pense qu'on ne le comprendra jamais vraiment bien.
Esther Duflo, vous restez avec nous. On va essayer de comprendre ce qu'on peut comprendre dans l'économie mondiale. On va élargir notre discussion dans un quart d'heure. Il est 8h sur France Culture.
France Culture, les matins d'été. Benoît Bouscarel.
Nous retrouvons notre invitée, l'économiste Esther Duflo, professeure au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, spécialiste d'économie du développement, de l'évaluation des politiques publiques, économiste de terrain, analyste des conséquences des politiques publiques avec des méthodes scientifiques innovantes qui pourraient vous valoir, Esther Duflo, dans un avenir proche, peut-être le prix Nobel d'économie, dans de nouveaux travaux que vous êtes en train de mener et qui donneront lieu à une publication prochaine, on va en parler peut-être. Vous vous êtes intéressée notamment, Esther Duflo, à la question des migrations, qui est une question évidemment très prégnante en ce moment dans le débat public, et à la façon dont cette question des migrations et ces migrations s'intriquent dans l'économie mondiale.
Oui, le sujet des migrations est vraiment le sujet qui touche, peut-être inquiète le plus...
C'est un des moteurs politiques
des
du
moteurs
moment,
politiques du moment partout, ouais. Un petit peu partout, dans les pays riches et aussi dans les pays moins riches. Par exemple, la crise des Rohingyas touche le Bangladesh, en Inde, les réactions en Assam sont très très similaires de ce que nous on peut voir à nos frontières, etc. Et ce qui est très frappant dans ce sujet, c'est que tout le monde a l'air de partager... une confiance absolue dans un syllogisme simple qui est, d'une part, on est tellement bien chez nous et ils sont tellement pas bien chez eux que si on les laissait venir, des millions et des milliards de gens voudraient venir dans notre beau pays. Ensuite, quand il y a beaucoup de gens dans un pays, ça fait moins d'emplois et moins de salaires pour tout le monde, le gâteau économique est partagé entre moins de gens et du coup... enfin, si on laissait nos frontières ouvertes, on aurait moins à manger nous-mêmes. Et ce qui est très intéressant dans ce syllogisme, c'est que tous les morceaux sont faux, en fait. C'est-à-dire, empiriquement, ce qui est frappant dans l'immigration, contrairement à ce que les gens... la perception qu'on en a, c'est que très peu de gens migrent, en fait. Et en particulier, ce qui les pousse à bouger, ce qui pousse les gens à bouger à partir de chez eux, c'est rarement des considérations économiques. Il y a des gens qui partent pour des raisons économiques, mais il y en a très très peu par rapport à la quantité de gens qui existent dans les pays les plus pauvres. Une façon très simple de le voir, c'est si on regarde la migration interne dans les pays pauvres, comme en Inde par exemple, où il y a des campagnes très très pauvres et des villes très très riches. Ce n'est simplement pas le cas que tous les gens des campagnes, mais dans les villes, alors qu'ils n'ont aucune barrière qui les empêche de faire ça. A priori, la plupart des gens préfèrent rester chez eux. Quand les gens partent, c'est parce que quelque chose les pousse, quelque chose comme un conflit, comme une menace, etc. C'est bien ce qu'on voit dans toute l'Amérique centrale. Les gens qui partent du Honduras, du Guatemala, etc., qui passent par le Mexique pour venir aux États-Unis, c'est pas pour des raisons économiques. Et donc ça, c'est la première partie du syllogisme, c'est-à-dire c'est simplement pas vrai que des masses de gens attendent aux portes pour nous envahir, pour parce que notre niveau de vie est supérieur.
Même si les catastrophes écologiques qui se succèdent, même si la pauvreté, la faim dans le monde qui progresse, on aura peut-être le temps d'y revenir aussi, même si toutes ces causes-là peuvent quand même pousser de plus en plus de migrants sur les routes.
Une énorme catastrophe pourrait pousser des gens, mais il faudrait vraiment que ce soit une énorme catastrophe. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu un article intéressant sur le Népal, où il y a beaucoup de migration du Népal vers les États du Golfe, et on se rend compte que ce n'est pas dans les années où la mousson n'a pas marché et donc les gens sont particulièrement pauvres. Les gens partent plutôt moins dans ces périodes-là que quand la mousson a bien réussi et qu'ils sont plutôt plus confortables. Donc en fait, la relation entre les catastrophes écologiques et une migration de masse n'est pas du tout si évidente que ça. Les conflits, que ce soit les conflits internes ou les guerres, ont des effets beaucoup plus directs. On est poussé hors de chez soi, on ne choisit pas de partir, pour la plupart des gens. Ça, c'est la première partie du syllogisme. La deuxième, c'est cette idée que si beaucoup de gens arrivent, ou même un peu de gens arrivent, les salaires vont diminuer, ou il y aura plus de chômage, etc. Et ça, à nouveau, c'est simplement pas vrai. C'est-à-dire, il y a des séries d'exemples qui ont été étudiés dans l'histoire qui montrent que même des flux importants de migrants dans une économie ne créent pas de chômage, ne baissent pas les salaires, de manière générale, n'empirent pas la situation économique des pauvres qui sont déjà là.
Il faut abandonner l'idée du gâteau qui est découpé en plus de parts.
Le gâteau n'est simplement pas fixe. Quand il y a plus de gens qui arrivent, il y a plus de gens pour partager le gâteau, mais il y a aussi un plus grand gâteau. Et du coup, donc par exemple, il y avait eu un afflux massif de Cubains à Miami, quand Castro avait finalement donné l'autorisation aux Cubains de partir, qu'on appelle le Mariel Boat Lift. Et cet épisode du Mariel Boat Lift a été étudié d'abord par David Card, puis par de nombreux autres économistes dans la suite, et a montré qu'il ne s'est juste rien passé à Miami. Même si des centaines de milliers de gens sont arrivés d'un coup.
Ils étaient très nombreux. Hein,
ouais. Très très nombreux. C'est des centaines de milliers de gens qui sont arrivés sur quelques jours, et puis ensuite ça a continué pendant quelques temps. Malgré cet afflux massif de Marielitos, de Cubains, on ne voit rien sur le
chômage. Quand vous dites on ne voit rien,
salaires,
c'est quoi? C'est sur les indicateurs économiques
les
principaux,
indicateurs économiques pour,
et notamment donc, ceux dont se servent les responsables politiques.
Le chômage, les salaires, même si on se restreint aux personnes non qualifiées, même si on se restreint aux Hispaniques, qui sont les plus similaires aux Cubains. Et cette recherche, il y a des recherches similaires qui ont été conduites avec d'autres mouvements massifs d'immigrants. Par exemple, en France, l'arrivée des Pieds Noirs après la guerre d'Algérie, qui a été aussi un mouvement massif de gens d'un coup. Les déplacements de populations après la Deuxième Guerre mondiale. Quel que soit l'épisode qu'on regarde, on ne voit pas d'effet de la migration sur les salaires. Et inversement, quand il y a eu des épisodes, on a réussi à renvoyer beaucoup de gens chez eux. Par exemple, à la fin des années 60, un acte a été passé pour renvoyer tous les travailleurs agricoles temporaires qui venaient du Mexique vers le Mexique. Donc on leur a supprimé leur visa. On les appelait les braceros, qui étaient ces Mexicains qui travaillaient sur les champs de ferme en Californie. À nouveau, on peut regarder avant et après, est-ce que les salaires ont baissé pour les travailleurs, ont augmenté pour les travailleurs californiens, c'était l'objectif. Est-ce que le chômage a baissé pour les travailleurs californiens? Et on ne voit à nouveau aucun effet. Et ça, c'est parce que, en réponse à l'expulsion des travailleurs mexicains, les agriculteurs ont mécanisé. Donc, les Mexicains ont été remplacés par des machines. Simplement, les travailleurs californiens ne voulaient pas accepter les conditions de travail que les Mexicains étaient prêts à accepter. Donc, quand les Mexicains sont partis, on les a remplacés par des machines.
pas de conséquences économiques quand migration il y a, c'est ce que vous nous dites, Esther Duflo. Et pourtant, c'est bien l'économie, ce sont bien ces indicateurs économiques que les politiques, les analystes, les commentateurs prennent à témoin pour essayer de faire en sorte de limiter les vagues migratoires, puisque c'est ça aussi qui se passe au niveau global. Vous nous dites qu'ils tordent la réalité. Et est-ce que c'est ce fait-là qui vous a poussé à vous intéresser aussi à des questions qui sont a priori loin du champ économique, le racisme, l'identité?
Oui, c'est-à-dire, ceux qui prennent, ce n'est pas, ceux que les politiques qui parlent de migration prennent, ce n'est pas des indicateurs économiques. C'est une espèce de, une anecdote ou une façon d'en parler, mais il n'y a pas d'indicateur économique qui nous permet de dire que la migration est mauvaise pour les populations natives, puisque c'est simplement pas vrai. Par contre, ils peuvent nous parler du risque, où ils peuvent nous raconter l'histoire. Et c'est une histoire qui paraît très très intuitive, c'est-à-dire tout le monde comprend, s'il y a plus de gens, il y a moins de gâteaux. Et du coup, c'est une histoire qui est très facile à faire passer, même s'il se trouve qu'elle n'est pas vraie. Et il faut un petit peu plus de temps pour expliquer pourquoi ça ne se passe pas exactement comme ça. Et par ailleurs, cette histoire... accroché à cette histoire, il y a aussi une panique identitaire qui est que non seulement si tous ces migrants arrivent, ils vont changer, ils vont potentiellement être en compétition avec moi sur le mode économique, mais ce qui fait vraiment peur aux gens en réalité, c'est la peur d'un déclassement culturel ou d'un changement de la culture qui est lié à nouveau à cette idée d'invasion qui est justement qui est fausse puisqu'il n'y a pas vraiment d'invasion mais qui est renforcée par le discours politique. Ce qui est très intéressant par exemple aux États-Unis, c'est que là où les gens sont vraiment contre l'immigration, c'est dans les endroits où il n'y a aucune immigration. C'est-à-dire dans les États, dans le Wisconsin, qui est vraiment très très loin de la frontière, où il n'y a tout simplement pas d'immigrants hispaniques, c'est là qu'on va avoir les gens, les réactions les plus anti-hispaniques et le plus de peur d'une disparition de la culture américaine blanche, chrétienne. Qui représenterait, enfin qui correspond à une espèce de mythe de création des États-Unis.
Comment vous reliez ça avec vos travaux sur l'économie, cette thématique-là sur l'identité et le racisme dans les travaux que vous venez de mener, qui donneront lieu donc à une publication fin d'année, début d'année prochaine, hein, je crois.
Les économistes sont beaucoup plus soit on pourrait dire impérialiste si on voulait le dire négativement, ou on pourrait dire ouvert si on voulait dire positivement, qu'on le croit, c'est-à-dire la perception de l'économiste, c'est souvent quelqu'un qui est en cravate et qui discute des taux de change et de l'évolution de la dette publique. Mais en réalité, la profession économique est beaucoup plus vaste que ça, et les recherches économiques sont sur des champs qui sont beaucoup plus vastes que ça. Et ce qu'on essaye avec mon co-auteur Abhijit Banerjee dans ce livre qui va paraître aux États-Unis en novembre et un petit peu plus tard en France, c'est de montrer que les recherches économiques sont aussi beaucoup plus subtiles qu'on pourrait le penser. Avec cette perception de l'économiste en cravate qui parle des taux de change. C'est-à-dire, les économistes parlent depuis des décennies, ils sont capables d'analyser les phénomènes sociaux, les phénomènes psychologiques, ces questions de racisme, ces questions identitaires. Elles sont aussi étudiées par les économistes. Et surtout, les conclusions sont toujours un petit peu plus subtiles que ce qui peut tenir dans un tweet. Souvent, les économistes qui sont le plus à la tête de ces travaux ne veulent pas en parler vraiment au grand public parce qu'ils pensent que ce sera trop compliqué, qu'ils ne comprendront pas, etc. Ce qui n'est absolument pas vrai.
C'est aussi votre sacerdoce, Esther Duflo. Vous dites qu'il faut comprendre, il faut prendre le temps finalement d'écouter, de lire aussi les économistes et ne pas les économistes de terrain et ne pas les confondre avec les conseillers économiques qu'on voit souvent sur les plateaux, qu'on entend souvent sur les plateaux de télé ou de radio.
Eh bien, en écoutant le discours politique et la manière dont le discours politique tord les réalités réalités économiques, les réalités sociologiques et les réalités factuelles, je me dis que c'est un peu regrettable que les économistes soient complètement sortis de la discussion politique, puisque beaucoup de sujets politiques ont des ressorts économiques fondamentaux. Et je pense que c'est possible, et j'espère y jouer un petit rôle, de remettre un petit peu les économistes dans la discussion, pas pour emporter le morceau, mais pour faire partie du débat avec d'autres, parce que tellement des sujets qui nous occupent aujourd'hui, que ce soit les politiques sociales, que ce soit l'immigration, que ce soit les sujets de croissance, de climat dont on parlait précédemment, sont des sujets qui ont des ressorts économiques. Donc il est bon de les comprendre.
Merci beaucoup Esther Duflo d'être passée par les matins d'été de France Culture à l'occasion de votre passage en France. Je renvoie à votre très riche bibliographie qu'on n'aura pas le temps de donner ici, de rappeler ici, mais sur notre site franceculture.fr et à la page des matins d'été, on pourra la retrouver. Merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie.